Europe 1.
Europe 1, 10h-11h.
Mediapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, oui c'est Mediapolis, le 13 juin, la vie est belle. On est tous présents, Catherine Ney, Justine Holman, oui. Dans la régie, Jean-Luc Arblade, le réalisateur, Capucine Patouillet et notre invité que vous avez d'ailleurs pas mal vu et entendu dans les médias pendant ces dernières semaines, mais qui n'était jamais venu à Mediapolis, Pascal Blanchard, historien, documentaliste, concepteur d'exposition, auteur, spécialiste de la colonisation et de l'immigration, co-auteur de son dernier ouvrage, je crois que c'est en janvier, « Décolonisation française, la chute d'un empire » chez La Martinière. Et je recommande aussi un super petit livre avec Nicolas Blancel qui s'appelle « De l'indigène à l'immigré ». Vous savez, dans cette collection Gallimard Jeunesse qui est faite pour absolument tout le monde et qu'avait inventé Pierre Marchand, une magnifique collection que je recommande. Et plein de sujets à traiter. Et comme d'habitude, pour commencer, Canteloup.
Il est là, Christophe Castaner. Hein. Il a annoncé hier une série de mesures pour combattre le racisme dans la police. Bonjour, monsieur le ministre.
Oui, bonjour, madame Julie. Écoutez, j'esquisse un sourire à chaque fois que j'entends votre musique. Bonjour à monsieur Béliard. Bonjour à tous mes frères Renois. Mes frères Rebeux. Bonjour à toute la Noachie Family. Bonjour à mes sœurs voilées et à tous mes cousins du bled.
C'est ça, oui.
Oui, je le dis ce matin, le racisme, je le dis solennellement,
oui.
Le racisme n'a pas sa place dans la police.
Attendez, vous dites qu'il y a des actes racistes et que ce n'est plus tolérable, mais depuis votre nomination, vous n'avez pas cessé de nier l'existence même du problème.
Non. Écoutez, tout cela est faux. Ce sont des allégations fausses, madame Julie. Je n'ai jamais nié l'existence du racisme. C'est juste que personne ne m'a interrogé là-dessus.
Ah, c'est ça.
Bah, écoutez, on m'a interrogé sur de prétendues violences policières au motif que des gilets jaunes auraient, paraît-il, perdu des œils. Aisés des mains.
Oh là là.
Et, pardon, mais ces mutilés, ils étaient blancs. Hein, et en plus, d'ailleurs, ils n'ont pas été trop mutilés. On a juste coupé des petits bouts. Rien à voir avec mes brothers que blas.
Alors, au sujet des violences, hein, quand même, vous avez concédé qu'il fallait interdire la méthode d'interpellation dite de l'étranglement. Oui.
Exact. Tout à fait affirmatif, madame Julie. Oui. Nous allons interdire cette méthode de l'étranglement. Oui, car nous avons... était informée auprès du conseil scientifique. Elle n'était pas recommandée par les médecins. Vous savez, maintenant, tout ce que l'on fait, on se réfère au conseil scientifique. De la même façon, nous allons interdire la méthode dite du saut à pieds joints sur colonne vertébrale.
Oh là là.
Qui, d'après les membres de l'académie scientifique, est contestée, en particulier par les ostéopathes. En revanche, la méthode dite du « je gaze les infirmières qui protestent en leur envoyant du lacrymo directement dans les yeux » continuera, elle, cette méthode, à être appliquée.
C'était donc Nicolas Cantou sur Europe 1, mardi matin. Alors, je vais commencer par une question, et exceptionnellement, si vous permettez, Pascal Blanchard, d'abord à Catherine Ney, et ensuite à vous. Ce que je n'ai pas compris, c'est que le ministre de l'Intérieur, lorsqu'il fait un discours demandé par le président de la République, sur un sujet aussi brûlant que le racisme d'une part et les méthodes d'interpellation policière de l'autre, et qu'il lit ce discours, peut prononcer une phrase aussi aberrante que celle sur un suspect avéré, c'est-à-dire une phrase qui soit n'a pas de sens, soit est une atteinte flagrante à la présomption d'innocence, sans que personne...
Vaudra une suspension systématique pour soupçon avéré.
Je vois pas comment c'est possible, sur un discours aussi important et lu, il n'y a eu personne parmi les relecteurs qui ait juste dit « Ah, cette phrase-là, on ne peut pas la prononcer ».
Mais oui, mais je n'ai pas d'explication et je ne sais pas qui a écrit le texte du Premier ministre. Donc ça, je ne peux pas vous répondre. Mais c'est vraiment... ça change complètement la logique. Ça, on passe du présomption de...
Et sur un texte comme ça, normalement,
oui.
ça, vous qui savez toutes ces choses-là très bien, normalement, ça remonte avant à Matignon pour relecture sur un texte de cette importance ?
Vous savez, c'était dans le feu de l'action, il fallait aller vite. Je veux dire, moi, je ne sais pas si Matignon était au courant non plus qu'on ait demandé à Madame Belloubet de recevoir la famille Traoré, ce qui était quand même, alors que l'instruction est en cours et comme... Et que la famille Traoré l'a envoyé paître. Vous voyez.
Alors, comment
donc,
c'est la même question.
D'ailleurs,
comment c'est possible qu'à l'Élysée,
ben voilà,
il n'y ait pas quelqu'un qui dit, monsieur le président de la République, vous ne pouvez pas demander ça, c'est, vous allez vous prendre l'atteinte à la séparation des pouvoirs dans la figure. Vous...
On peut imaginer aussi que l'action a fait qu'on a pensé qu'il fallait réagir vite et qu'il fallait à tout prix éteindre l'incendie. Au lieu
c'est
d'éteindre
la panique.
L'incendie.
C'est une...
Oui. Oui, non, l'urgence d'abord tourne, on ne remonte pas à Matignon par définition des déclarations des ministres. Sauf quand c'est une grande déclaration ou un grand discours et autres. Deuxièmement, on est quand même dans un processus là où on voit que l'activité ministérielle est sous la pression des médias et donc doit essayer de réagir très très vite. Et on voit bien d'ailleurs la nuance sémantique dans ce titre. C'est de dire, on va essayer d'anticiper avant même que quelque chose arrive parce que le racisme, on peut le voir monter à travers qui des réseaux sociaux, qui des choses. Et donc en fait, ce qui est inacceptable en termes de vocabulaire correspond assez bien à la mentalité qui est derrière. C'est on va essayer d'anticiper ce qui pourrait arriver à cause du racisme avec différents petits éléments qui peuvent remonter. Typiquement, le rappelez-vous, on était en plein moment, on venait d'apprendre ce réseau Facebook avec 8000 policiers qui communiquaient entre eux. Oui. Donc il y a eu ce mélange des genres qui fait qu'on se retrouve avec un anachronisme absolu en termes de droit.
Mais alors, est-ce qu'on peut être d'accord pour dire que, sans fausse modestie, si n'importe lequel de nous trois avait été conseiller du ministre de l'Intérieur en relisant le papier, on lui aurait quand même dit « il ne faut pas mettre cette phrase ».
À partir du moment où vous avez un conseiller qui maîtrise le droit et qui à ce moment-là a totalement un regard sur le concret et n'est pas forcément à vouloir répondre à la problématique journalistique, oui, c'est l'inverse qui s'est passé. Le ministre a d'abord voulu répondre à ce moment-là à une sorte de logique d'équité, on va dire, de discours, être entre la pression sur ceux qui dénoncent le racisme dans la police et la police à côté. Typiquement, on a oublié le droit et on s'est préoccupé de faire du médiatique.
Oui, mais surtout, il n'a pas consulté Laurent Nunez, qui est son secrétaire d'État, avec qui il travaille de concert. Quoi. Oui, donc, il n'a pas fait relire le texte, même à lui, qui sûrement l'aurait averti que c'était dangereux. D'ailleurs, depuis, et le Premier ministre, et Laurent Nunez, et le préfet de police de Paris, et le directeur national de la police ont vraiment... rectifier tout ce qu'il a dit, et ça, il a reçu quand même une volée de bois vert.
Ah bah là, il s'est fait reprendre complètement en main, il faut être très clair.
Deuxième question, où là, je vais peut-être me prendre un peu tout le monde contre moi. Je désapprouve, et je pense que c'est une erreur, le cliché sur le ministre de l'Intérieur, premier flic de France. Je veux dire, un ministre n'est pas le représentant d'une catégorie de la population.
Non, mais il en est le patron. C'est une, comme ça, c'est une facilité. Mais en étant leur patron et en les soutenant, et en étant de leur côté, il est quand même, de fait, le premier flic de France.
Ça correspond aussi à une époque. Ça correspond aussi à l'époque dont on a hérité. Je pense que depuis les quelques derniers ministres, c'est beaucoup moins le cas. Mais il y a eu une époque où c'était celui qui était d'abord le défenseur des policiers et, leur chef. Dans la symbolique même, c'était un peu sa mission. C'était un peu comme le patron des armées. Il y avait un peu ces logiques qui sont un peu héritées des temps anciens, qui aujourd'hui n'ont plus du tout de réalité, puisqu'on le voit bien aujourd'hui, pour les syndicats policiers par exemple, le ministre, c'est la personne avec qui plutôt on négocie en ferraille par rapport à défendre ses intérêts, ou que beaucoup plus son représentant en qui on a confiance. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu un ministre, on va dire entre guillemets, de la police, qui soit complètement perçu comme étant le porte-parole et le défenseur des policiers. Ce temps-là n'est plus.
Mais alors, ça a quand même rendu les policiers fous. Oui. Il y a quelqu'un qui l'a saisi tout de suite, c'est Geoffroy Lejeune, le directeur de la rédaction du magazine Valeurs Actuelles, qui a réagi très très peu de temps après sur LCI. Écoutez.
Aujourd'hui, Christophe Castaner, mais c'est de la démagogie, c'est purement de la lâcheté. Il s'incline devant l'esprit de l'époque et devant la famille Traoré qui fait peur à tout le monde. Il serait bien inspiré d'aller remettre de l'ordre à Beaumont-sur-Oise, beaucoup plus que de leur céder. Aujourd'hui, il est en train de plier l'échine. C'est tout simplement ce qui est en train de se passer. Pardonnez-moi, je suis effondré. Et c'est pas de vouloir la guerre civile, c'est au contraire de vouloir l'ordre de dire ça.
Et après, j'ai rencontré sur LCI, j'ai rencontré Geoffroy Lejeune. Je dis, mais comment, bien avant que le moindre des flics proteste, comment tout de suite t'as cogné aussi fort Castaner? Il m'a répondu, parce que j'ai eu quelques coups de fil avec des policiers et j'ai vu qu'ils étaient dans un état fou. On a rarement vu les policiers en révolte à ce point.
On les a vus déjà en révolte. Rappelez-vous à certaines époques, au moment de l'affaire Oussekim et compagnie. Hein. On a tous oublié qu'il y a déjà eu des moments comme ça de fortes tensions. Là, ce qui s'est passé
mais
aussi...
Mais pas à ce point.
Non, pas à ce point, parce que... Non, mais là, ce qui se passe en ce moment, c'est que la police sait très bien que l'affaire est loin d'être terminée. C'est que le début d'une très très longue négociation. S'il n'y avait pas de problématique dans la police, s'il n'y avait pas eu, je me rappelle qu'en même temps, on a à la fois les faits qui se sont déroulée. On a l'affaire Traoré qui est loin d'être terminée. Mais en plus, au même moment, on a tous oublié qu'il y a l'affaire sur ce réseau Facebook où un certain nombre de policiers avaient énoncé un certain nombre de faits, de discours et de mots racistes. Donc, d'un seul coup, le contexte faisait que ça pouvait prendre une ampleur majeure. Et c'est loin d'être terminé. Ça peut encore prendre une ampleur majeure. L'affaire Castaner a simplement été un très mauvais démarrage de la part du pouvoir politique pour arriver à dire quelle politique elle allait mettre en place. Pourquoi ? Mais parce que ça fait 30 ans qu'on ne sait pas, dans la haute administration française, quelle qu'il soit, gérer la problématique du racisme. On ne sait pas le faire. Parce qu'on d'abord, d'à côté, on n'a pas la partie formation en amont, qui serait quand même à peu près fondamentale, et c'est valable dans la pénitentiaire aussi. Deuxièmement, on ne sait pas comment faire pour... Comment vous allez définir qu'un fonctionnaire a pu, dans l'exercice de ses fonctions, avoir un acte qui puisse être lié à une démarche ou à une dynamique raciste ? On ne sait pas faire, il n'y a pas de définition absolue, à part trouver des mots écrits, ce qui est le cas aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Et puis, dernière chose qui est fondamentale, on sait qu'il y a une problématique dans la police. On sait, et donc les syndicats sont vent debout parce qu'ils savent très très bien qu'il y a un certain nombre de policiers qui ont aujourd'hui, dans leur vocabulaire, dans leur expression, dans ce qu'ils écrivent, rappelez-vous ces vidéos où on voit des policiers poursuivre une jeune personne d'origine maghrébine et professer sur les quais d'un fleuve des propos extrêmement racistes. Donc tout ça est très compliqué, ce n'est que le début d'un bras de fer. Et on va voir que dans les semaines qui viennent, les suites vont par définition encore occuper l'actualité.
Et dans cette histoire, c'est le Premier ministre qui à un moment est monté au front pour essayer d'éteindre l'incendie. On l'écoute dans un instant.
Jusqu'à 11h sur Europe 1, vous retrouvez Olivier Duhamel et Catherine Ney qui sont accompagnés aujourd'hui par l'historien et documentariste spécialiste de la colonisation et de l'immigration, Pascal Blanchard.
Alors on récapitule du racisme dans la police le feu au lac chez les policiers. Dimanche, le président de la République demande au ministre de l'Intérieur les conclusions de travail fait pour améliorer la déontologie sur la question du racisme. Lundi, déclaration de Castaner que nous venons de décortiquer. Mardi, le Premier ministre au Sénat essaye d'éteindre le feu.
La France a depuis bien longtemps fait le choix de la République. Et en faisant le choix de la République, elle a voulu dire que tous ses enfants étaient libres et égaux en droit. Est-ce que notre pays a toujours été à la hauteur de ses principes ? Peut-être pas toujours. Ceux qui sont en première ligne pour protéger les enfants de la République, ce sont les gardiens de la paix, les forces de l'ordre, la police et la gendarmerie. Leur mission est redoutablement difficile. L'ensemble des membres du gouvernement, l'immense majorité des Français, a vis-à-vis de nos forces de l'ordre respect et confiance. Mais parce que nous devons avoir respect et confiance, nous avons également un devoir d'exigence vis-à-vis d'eux.
C'était donc, avant le Sénat, c'était dans la ville d'Evry, auprès des gardiens de la paix. Hein. Vous
mais
notez bien, gardiens
aussi,
de la paix, forces de l'ordre, gardiens de la paix.
Il a dit aussi à l'Assemblée nationale, en réponse au ministre de l'Intérieur, « Je ne veux pas que la présomption passe de celui qui trouble l'ordre public à celui qui le défend. Si nous acceptons cette facilité de l'esprit sous le coup de l'émotion, alors c'est un basculement de la République. »
Double démenti, donc à la fois le tacle sur la présomption d'innocence et le tacle sur l'émotion.
Voilà.
Mais en fin de compte, on voit qu'il y a une contradiction formelle. On imagine que nos policiers puissent être exemplaires à l'égard de quelque chose qui est intimement complexe et qui touche chacun d'entre nous dans une société.
Absolument.
C'est pouvons-nous ou non avoir des ressentis, des sentiments racistes ? Et on se doute bien que s'il y en a dans la société, il peut y en avoir dans la police. Et puis on inverse le processus de la responsabilité de l'État. Ne pas former des policiers ou ne pas former des fonctionnaires qui exercent une profession qui, par définition, risque d'être confrontée à de la violence, à de l'arrestation dans des quartiers populaires difficiles, donc à des enjeux qui font appel à l'altérité, ce qui n'est pas neutre. Ce n'est pas la même chose si vous vous posez la question d'administration ou de hauts fonctionnaires qui n'auront jamais de rapport à l'altérité et que vous ne vous posez pas la question des programmes que vous mettez en place de formation depuis des années sur ces enjeux-là. Il y a un petit débat. Je vais donner un exemple qui est très simple. J'ai rencontré l'autre jour des policiers, je leur disais, parce qu'ils m'avaient entendu dans une émission, je leur disais, vous savez qu'il y a eu une police des Noirs en France. Une police spécifiquement pour surveiller les Noirs. J'avais face à moi 30 policiers, aucun ne connaissait cette histoire. Je leur dis donc, vous connaissez au moins la police des Maghrébins qui a été créée en 1925, rue Lecomte.
Mais la police des Noirs, rappelez-leur la date.
1777, sous l'Ancien Régime. D'accord. Elle a duré sous Napoléon Bonaparte, elle a permis d'arrêter tout.
C'était avant l'abolition de l'esclavage.
Tout à fait, elle a continué après l'abolition de l'esclavage, la première. 1925, la rue Lecomte, c'est bien après l'esclavage et c'est sous la République. Et ça a duré jusqu'en 1958. Et puis je vous rappelle qu'il y a eu une police des Juifs, sous Vichy. Et j'avais face à moi des fonctionnaires de police qui ne connaissaient pas l'historicité de leur corps. Deuxièmement, à partir du moment où j'ai parlé avec eux d'une problématique qui était comment les polices allemandes sont formées.
Oui, mais ils ne vont pas mettre un genou à terre parce que leurs ancêtres...
Ils ne mettront aucun genou à terre si la police dans ses pratiques, ne se sent pas responsable. Pourquoi en Allemagne, vous avez 8 fois moins d'arrestations au faciès? À votre avis, c'est parce que les Allemands sont meilleurs dans l'appréhension de l'autre, parce... ou c'est parce que la formation en Allemagne, elle est pertinente aujourd'hui dans la police? Eh, on peut se poser aussi la question. Je suis désolé, on le voit bien qu'il y a des villes américaines où la vie, vous savez qu'aux États-Unis, la formation des policiers n'est pas nationale. Elle est locale. Ben, elle est municipale.
Mais je peux vous dire aussi qu'en Allemagne, il n'y a jamais de camps d'immigrés qui sont dans les rues, qui sont dans... On vous voyait jamais...
En 2015, c'était un peu la pagaille quand même. Si vous avez fait les grandes villes allemandes,
il y a eu quelques camps d'immigrés. Ça a été la pagaille parce qu'il y avait quand même des arrivées qui étaient autorisées et on n'a pas logé tout de suite tous ces gens qui sont arrivés. Mais pendant des années, il n'y a jamais eu... Les Allemands s'étonnaient qu'on puisse trouver en France des camps de Roms sur les voies ferrées, ces choses-là. Ça n'existait pas parce qu'eux, ils avaient... Vous pouvez faire une politique de logement. Il y avait une politique d'accueil des gens. On n'entre pas comme ça en Allemagne, alors qu'en France, on entre comme ça et on n'expulse pas.
Vous êtes donc d'accord avec moi. À partir du moment où il y a une politique, elle est structurée, qu'elle est coordonnée, qu'elle est organisée et qu'elle est formée et qu'on forme ses fonctionnaires, comme par hasard, ça se passe mieux. Et que la police commence à repartir à la base zéro. L'État a une responsabilité de former tout fonctionnaire qui doit assurer les principes de la République. À partir du moment où l'État ne produit pas cette formation, vous savez que dans la pénitentiaire, par exemple, ça se fait de plus en plus d'années. La police est donc en retard là-dessus. Parce qu'on pense qu'aborder la question dans la police, ce serait suggérer qu'il y a un problème. Non, la formation, c'est anticiper les problèmes.
Et pendant ce temps-là, Catherine l'évoquait à un instant, il y a ici et là les genoux à terre contre le racisme. On y vient dans 2 minutes.
Pascal Blanchard, historien, documentariste et co-auteur de Décolonisation française, la chute d'un empire aux éditions La Martinière. Et votre invité, Olivier Duhamel et Catherine Ney, dans Mediapolis, ce 13 juin.
Et jeudi matin, matinale d'Europe 1, invité de Sonia Mabrouk, Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. Et elle lui demande s'il mettrait le genou à terre. Et il répond.
Mais non, parce que je ne me sens pas coupable. Parce que la France n'est pas coupable de racisme. Parce que je dis qu'il y en a marre de ces injonctions qui voudraient que chaque matin, on puisse se battre la coupe. Cette espèce d'injonction à une reconnaissance de pénitence, de repentance perpétuelle.
Pascal Blanchard, il y a glissement du terrain de la solidarité ou la vigilance au terrain de la repentance ?
Ah, c'est compliqué, surtout que la droite, depuis des années, tient le thème de la repentance et du refus de voir le lien qu'il pourrait y avoir entre le passé et le présent pour certains comportements dans l'actualité qui pourraient être des héritages du passé. Donc là, il est dans son rôle de droite, et il l'assume pleinement. En même temps, Retailleau, c'est pas nouveau chez lui qu'il l'assume pleinement. En même temps, dans le signe qu'il y a du genou à terre, il y a deux aspects. Donc il y a quelque chose qu'il ne faut pas non plus complètement rejeter dans ce principe-là, c'est qu'il y a à la fois la reconnaissance de ce que l'autre a pu souffrir. Donc dire « je vous comprends », c'est ce qu'ont fait beaucoup de policiers américains face à des manifestants noirs aux États-Unis. Il y a ça, et il peut y avoir une perception, qui est d'ailleurs très christique, très religieuse, rappelez-vous Martin Luther King à une époque, ce genou, ce qu'il pouvait signifier aussi, qui pourrait être une notion de quelque part, je me sens responsable d'une part de quelque chose de ce qui arrive. C'est vrai que dans le geste, il y a les deux aspects. Donc après, ça dépend ce que vous voulez voir, la partie pleine ou vide de la bouteille. Soit vous considérez que c'est la reconnaissance de l'autre, soit vous considérez une reconnaissance de responsabilité de ce qui arrive à l'autre.
Oui, mais enfin, quand même, ce qui est extraordinaire, c'est que le monde entier et les Français ont été terriblement émus, scandalisés, choqués par cet assassinat de George Floyd en Amérique. Vraiment, un meurtre en direct. Alors qu'après ça... Et ce que vous dites, se mettre un genou à terre, ce sont des pratiques américaines où franchement les policiers ont raison de mettre à genoux parce que franchement les Noirs, on les a martyrisés, tués et ça continue. C'est pas du tout le cas en France. C'est pas la même chose. Vous parlez dans l'histoire ancienne peut-être, mais dans les 100 dernières années, une recherche. On peut pas. Alors qu'un ministre de l'Intérieur dit qu'il est prêt à mettre le genou à terre parce qu'il a vu des policiers en Amérique, moi je trouve ça puéril, ridicule et en tous les cas choquant pour les policiers. Et quand ils disent que l'émotion dépasse les règles juridiques, alors là, écoutez, on est en plein délire, quoi. Il n'est pas dans son rôle et moi je trouve ça très choquant.
Alors l'émotion dépasse les règles juridiques, ça oui, on peut s'accorder là-dessus, c'est une phrase insensée de la part d'un ministre de la République. Mais en revanche, Catherine, est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi un phénomène qui ressemble un peu, toutes choses égales par ailleurs évidemment, mais qui ressemble un peu aux grands mouvements de jeunesse qui se sont produits dans le monde entier à une certaine phase de la guerre du Vietnam, paix au Vietnam, où les gens, et pourtant...
Mais j'en ai pleuré de voir George Floyd.
Mais la France n'était plus en guerre avec le Vietnam, c'était les Américains. Donc quand on dit quand vous dites, j'entends bien ce que vous dites, mais quand vous dites que c'est les policiers américains racistes qui tuent dans des conditions effrayantes, c'est pas pareil chez nous, mais on pourrait faire la même chose au moment du Vietnam. C'était pas nous qui bombardions
enfin,
le Vietnam.
Écoutez, je vais vous dire, quand j'ai vu une de nos consoeurs, c'est Bruce Toussaint, sortir de son siège, mettre son genou à terre pour demander pardon, je me suis dit, là où on va, quoi.
Ça, oui, mais vous voyez, quand même pas, en même temps, il faut pas non plus ne pas savoir faire la part des choses sur un sujet comme celui-là. Notre temps est mondialisé. Alors, le meilleur exemple, c'est que cette image a eu un effet monde sur un événement peut-être qui vient d'un pays, mais la réaction qui soit mondialisée, là je vous rejoins, démontre que nous avons aussi sur certains sujets des comportements qui sont maintenant à l'échelle monde. Nous sommes dans un temps mondialisé. Nous ne sommes plus à penser l'émotion à l'aune de nos frontières. C'est plus possible. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, ce qui se passe aux États-Unis, dans le cadre particulier de l'histoire américaine et d'une violence particulière à l'égard des Noirs, répond et résonne chez certains en Europe et pas qu'en France. La preuve, c'est que si on démonte des monuments là-bas et ici, ça prouve bien qu'il y a une pointe de conjonction et qu'il y a des éléments qui peuvent rappeler aussi certains comportements par rapport à certaines populations de ce qu'ils subissent. Qu'on soit ou non d'accord dans leur émotion à eux, il y a une forme de proximité avec ce qui se passe en Amérique. Qu'on soit d'accord ou non, le genou à terre est aussi un geste mondial par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres polices. Plus au Brésil, les rapports de la police avec les Noirs sont aussi difficiles que dans d'autres pays. Et la France n'est pas totalement absente de cette histoire.
En tout cas, jusqu'ici, le genou à terre n'était pas une pratique européenne.
Non, quoi. Mais
voilà,
le fait
j'ai jamais vu un ministre de l'Intérieur européen dans n'importe quel pays où il y a eu des violents mettre le genou à terre.
Je vous rappelle donc c'est que quelque chose. Il n'y a pas de ministre non plus de la police ou de l'armée qui aux États-Unis a mis un genou à terre. Donc là, on parlait bien de policiers dans l'exercice de leurs fonctions qui sont confrontés aux manifestants.
Genou à terre ou pas, je dois moi vous faire taire un instant, parce que j'ai aussi mes obligations. Dans quelques instants, on reprend le sujet, et notamment cette question des statues des Boulonnais.
Comme chaque samedi, on vous retrouve Olivier Duhamel et Catherine Ney pour Mediapolis. Aujourd'hui, vous recevez l'historien, documentariste et concepteur d'exposition Pascal Blanchard.
Et Catherine Ney l'évoquait tout à l'heure, se développe dans plusieurs pays, et notamment chez nos voisins britanniques et chez nous, des déboulonnages de statues de personnages historiquement contestables et contestés. Et grosso modo, j'ai identifié trois positions là-dessus. J'ai demandé à notre invité s'il en a une quatrième ou s'il se reconnaît dans l'une des trois. Il y a celle qui consiste à dire... Mais c'est très bien, ce sont des mouvements militants et populaires qui nous invitent à être lucides sur des gens qui ont été l'auteur des codes noirs comme Colbert, et on ne peut pas laisser les statues Colbert, les salles Colbert, etc. À l'Assemblée nationale, c'est une honte. Vous avez des gens qui sont à la position intermédiaire qui consiste à dire eh bien, on peut revoir un certain nombre de personnages honorés. Mais il faut le faire selon les règles. Il faut que ce soit des décisions de municipalité et pas des décisions de foule, ou des décisions des institutions concernées comme l'Assemblée nationale et pas des attaques sauvages. Et ça, c'est la position que défend Jean-Marc Ayrault dans Le Monde de cet après-midi, ou Jean-Noël Jeannet, par exemple, chez les historiens. Et puis, il y a la troisième position. Qu'est-ce que c'est que cet anachronisme ? Qu'est-ce que c'est que cette façon de revoir l'histoire avec les yeux d'aujourd'hui ? Tout ça n'a pas de sens et nous entraînerait dans des dérives sans fin. Pascal Blanchard.
Deux bis. Ayrault, Jeannet, entièrement raison. On doit commencer à penser que ça doit rester, parce que si vous enlevez les traces du passé, le métier d'historien s'arrête, et que dans 20 ans, des gens vous diront « mais la colonisation et l'esclavage n'ont jamais existé, regardez, il n'y a rien dans nos murs, il n'y a rien dans nos quartiers ». Donc on ne déboulonne pas d'un côté et on ne ferme pas les yeux de l'autre. Aujourd'hui, faire qu'un jeune rentre dans un lycée Colbert et qu'on n'explique pas qui est Colbert et le code noir, ça ne va pas. Ça ne marche pas. Ça ne matche pas, nous ne sommes pas à la hauteur de l'éducation que la République doit produire à tous ses enfants. S'il y a une plaque de rue Gallieni, ou une, on rappelle à Paris, rue Gallieni, avenue Gallieni, et une statue Gallieni, ça va, on fait la totale. Personne ne sait qui est Gallieni. Peut-être expliquer qui était ce monsieur Gallieni qui a colonisé Madagascar et comment ça s'est passé. Moi, je veux utiliser ces lieux parce que nous n'avons pas de musée. Il n'y a pas de musée d'histoire coloniale dans ce pays. Donc c'est simple, si vous voulez emmener vos enfants et vos petits-enfants pour apprendre l'histoire de France, eh ben vous restez chez vous, vous allez sur Internet. Un pays qui n'est pas capable de construire un musée pour raconter l'histoire et son passé, c'est le cas sur la colonisation. Et ça fait maintenant 7 présidents de la République qui n'ont pas osé passer ce cap de lancer une grande mission de préfiguration. On espère qu'Emmanuel Macron le fera avant la fin de son quinquennat. Eh ben ne vous étonnez pas que maintenant les gens s'emparent des sculptures dans les rues. Et je vous rappelle que la Martinique, ça a démarré 48 heures avant l'affaire Floyd. Ok ? 48 heures avant le déboulonnage des deux sculptures de Schœlcher.
C'est donc ça qui est extraordinaire. Parce que Schœlcher,
le hasard
et celui...
de l'histoire.
Non, mais hasard de l'histoire, écoutez, là, pour le coup, ils ne connaissent pas leur histoire. Parce
ça,
que sans
je pense qu'on va avoir une nuance dessus.
Parce que sans Victor Schœlcher, ben, je veux dire, c'est lui qui a amené à l'abolition de l'esclavage. D'ailleurs, il était aussi pour la peine de mort. Alors, c'est vrai que ceux qui ont déboulonné sa statue trouvent qu'on lui fait la part trop belle et que s'il y a eu l'abolition de l'esclavage, c'est aussi la lutte des esclaves en Martinique. Nous... Bon. Mais
c'est
vraiment.
Vrai. D'ailleurs, vous reconnaîtrez que c'est tout à fait vrai. Hein. Si les esclaves sont libérés, c'est pas juste par la bonté du Seigneur et la grandeur des blancs.
Non, mais
hein. C'est d'abord parce qu'ils se sont révoltés.
Je veux pas nier qu'il y ait de l'esclavage en Martinique.
Non, bon, qu'ils se sont révoltés.
Bon, qui se sont révoltés et qui ont été voilà.
Ils ont été les acteurs de leur propre émancipation. Il y a autre chose chez Schœlcher qui lui reproche, c'est d'avoir indemnisé les maîtres et deuxièmement d'avoir soutenu après la colonisation.
Oui, mais
ce qui n'est pas une petite nuance, vous l'accepterez quand même dans la perception de
Schœlcher. D'accord. Mais vous voyez, François Mitterrand, lorsqu'il a été élu, qu'il est allé au Panthéon, sur qui a-t-il mis une rose dans le Panthéon? Eh bien, il y avait Victor Schœlcher.
Mais on le comprend tout à fait. En tant que
j'adore la France parce que même quand les gens sur un sujet sont d'accord, comme grosso modo en ce moment, Pascal Blanchard et Catherine, arrivent à trouver.
Non mais moi
de ferrailler alors que tout ce que j'entends c'est plutôt
sur Colbert, sur le Code Noir.
Colbert,
d'abord il a commencé à l'écrire, c'est pas lui qui l'a fini parce qu'il est mort.
Il est mort avant la fin.
Bon, avant la fin. Et personne n'a jamais vu l'ordonnance telle qu'elle était à la sortie. Maintenant, il y a des versions différentes, on ne sait pas. Bon, alors c'est vrai qu'à l'époque, c'était comment les propriétaires pouvaient disposer des Noirs. Ça, c'est vrai
en
que ce n'était pas
bien
très
meuble,
gentil.
En tant que bien meuble
et tout ça. Tout mais aussi, on les obligeait à se convertir au catholicisme, à être catholiques, et on chassait les Juifs. Et on chassait les Juifs des colonies.
Et on expliquait les marquages sur le corps et la manière dont on pouvait les punir.
Mais je veux dire, on ne peut pas juger une époque, on ne peut pas complètement. Mais Colbert, aujourd'hui, pourquoi déboulonner sa statue? Parce que quand vous dites aujourd'hui, on le dit encore de quelqu'un. Et pour faire un éloge, il est colbertiste. On ne dit pas il est colbertiste parce qu'il a écrit le Code Noir.
Non.
On dit il est colbertiste parce qu'il a été essentiel
grandeur
pour la construction.
Grandeur de la marine et du commerce français.
Alors voilà, donc si vous voulez, si on retient, si on ne veut retenir que ça... Et déboulonner Colbert.
Mais il faut aussi parler de ça.
Mes amis,
il faut laisser la statue de Colbert à côté de
avec un texte. Mettons la statue de Colbert avec un texte.
Je compte sur vous pour faire le texte.
On fait le boulot.
Et bien voilà, ainsi se termine la conférence de la présidence à l'Assemblée nationale sur un compromis. On garde, mais avec un texte. La suite dans deux minutes.
Jusqu'à 11h, vous écoutez Mediapolis avec Olivier Duhamel et Catherine Ney qui ont pour invité ce samedi Pascal Blanchard, historien, documentariste et co-auteur de Décolonisation française, la chute d'un empire aux éditions La Martinière.
Est-ce que vous pensez que sur cette question du racisme et de la discrimination dans la société française en général et dans la police en particulier, est-ce que vous pensez comme moi que c'est un peu étonnant l'ampleur de la polarisation et de la cristallisation des discours. Parce que si vous êtes à droite, vous n'admettez même pas, très à droite, vous n'admettez même pas qu'on parle de policiers racistes. Et vous dites, mais les policiers subissent, souvent à cause de Noirs et de Blacks, parce que c'est ce qui se passe dans les banlieues.
Non
mais je dis pas
c'est vrai.
Non mais
c'est un fait.
Je vais essayer de faire que tout ce que je dis est vrai.
D'accord.
Mais simplement.
Non, mais j'abonde dans votre sens.
Voilà. Mais on va voir jusqu'où vous abondez dans la suite. Parce que, après, au milieu, vous avez les gens qui disent il y a du racisme dans la police, c'est incontestable. Il y a des pratiques discriminatoires importantes, les Français, à l'égard des Noirs, à l'égard des Arabes. Et d'ailleurs, les deux tiers des Français, même quand ils ont de la sympathie pour la police aux trois quarts, disent en même temps qu'il y a cette discrimination. Ce qui prouve, bon. Et puis après, quand vous allez vers l'extrême gauche, c'est il y a en France un racisme d'État, institutionnalisé, systématique, et pas un mot sur ce que subissent les policiers. Donc pourquoi est-ce qu'il y a cette étendue de la polarisation au lieu de se retrouver sur une position commune à partir de la réalité?
Parce que la position commune, elle induirait qu'il y ait une manière commune de voir le rapport que nous avons entre le passé et le présent. Le racisme est un produit de l'histoire. D'accord, on n'est pas raciste. Aucun petit enfant de 2 ans n'est raciste.
Vous êtes sûr de ça?
Ah, je suis certain. Le racisme naît de l'histoire dans ses mécanismes, dans ses réflexes, dans sa construction. D'ailleurs, les formes de racisme ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Vous venez de le dire vous-même en parlant de l'Amérique et de la France. C'est le fruit de l'histoire. On n'a pas la même histoire en Pologne. D'ailleurs, je vous rappelle que l'histoire de la Pologne et de la Russie, c'est de tuer des Juifs. L'histoire de l'Amérique, ça a été de tuer des Noirs. L'histoire de la France, ça a été de tuer des Arabes. Et ça existe depuis des siècles. Nos histoires ont construit nos manières d'appréhender l'autre et donc nos continuités, nos héritages dans le présent. Que le racisme se perpétue ou diminue face à l'actualité, au présent, au choc de ce qui peut se passer dans l'actualité, dans notre présent historique, vous avez aussi raison. C'est la rencontre des deux.
D'accord.
Mais en même temps, la manière dont on parle à notre nation, dont on parle à nos enfants, dont on éduque la nouvelle génération, on déconstruit plus ou moins le racisme de la société. Et on peut des fois, en le déconstruisant, faire d'immenses bêtises, par exemple en stigmatisant tel ou tel type de comportement, ou en supprimant dans les musées américains des œuvres d'art de blancs pour les remplacer par des noirs pour trouver de l'équilibre, ou en favorisant telle ou telle population, provoquant d'ailleurs des rejets
ça,
organiques.
Vous trouvez ça débile. J'ai même vu que vous étiez très contre, par exemple, à la suspension, interdiction, suspension d'autant l'emporte le vent.
Ah mais c'est une vraie bêtise. Comment on va expliquer à nos enfants le racisme dans 20 ans si on supprime tous les livres et tous les films qui étaient racistes? Par contre, je pense qu'il faut commencer le livre par 10 pages qui explique pourquoi en 39, on a un discours ambigu auprès des Noirs américains. Bah, parce qu'on va les envoyer à la guerre dans peu de temps, mais qu'en même temps, il faut espérer qu'ils ne se révoltent pas. Il faut remettre tout ça dans son contexte. Il faut remettre les films comme L'homme du Niger dans son contexte. Il faut remettre des films comme Pépé le Moko dans son contexte. Il ne faut pas les interdire. Sinon, on est morts, nous, les historiens. Et les citoyens demain devront expliquer à leurs enfants sans aucune matière première, sans Tintin au Congo, sans Banania, ce qu'a été le temps des colonies. Pourquoi ? Parce que nous sommes les enfants de Banania. Ok ? Cette image, elle a produit un regard. Et ce regard, il produit une part du racisme actuel, du stéréotype actuel, qu'on le veuille ou non, qu'on veuille ou non être de droite ou de
Banania,
gauche.
Banania, pour nos auditeurs jeunes, c'était une pub sur du chocolat.
Ouais. Poudre de banane, chocolaté au petit déjeuner.
Et le slogan était « Y a bon Banania ».
Exact, qui venait de la guerre de 14-18, l'hommage à nos tirailleurs sénégalais. Voilà. Donc à partir du moment où c'est dit ça, vous comprenez bien que sur le spectre politique, il y en a qui vont d'un côté dire « nous allons nous flageller, nous sommes coupables de ce qui s'est fait hier » et donc les policiers sont le reflet ardent de cette culpabilité. Puis d'autres vont dire « jamais je reconnaîtrai la repentance de ce qui s'est passé, que nous ayons une culture raciste à une époque ou même que la République paye des droits de l'homme et puis imaginez un moment qu'elle allait coloniser et ne pas respecter l'équité. » Bah, désolé, quand vous regardez le code de l'indigénat, quand on était noir et arabe au début du XXe siècle, on n'était pas citoyen français. Nous sommes héritiers de ça.
Eh bien, on va faire un petit tour.
Et moi, je peux dire quelque chose ?
Allez-y, alors.
Bon, eh bien, moi, je peux dire qu'aujourd'hui, quand M. Blanchard dit qu'à 2 ans, on n'est pas raciste, mais on ne l'est pas non plus aujourd'hui à 10, à 15, parce qu'aujourd'hui, les écoles, non seulement publiques, mais privées, dans les classes, il y a la mixité. Les jeunes, ils sont avec, c'est des classes multicolores, multiraciales, et ça se passe très bien. Et les jeunes à l'école, ils ne sont pas anti-noir ou anti, au contraire, ils n'ont qu'une envie. Et on voit que les élèves, dans certaines, ils vont à Sciences Po, certains peuvent accéder à Sciences Po. Je veux dire, il y a quand même une culture...
Avec difficulté.
Avec difficulté. Mais c'est nouveau, quand même. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans les banlieues, où il y a des gens qui terrorisent les banlieues, et la famille Traoré, quand même, il faut le rappeler, a absolument mis sous sa coupe le Beaumont-sur-Oise. C'était une famille de 17 enfants, dont 6 garçons, qui sont d'ailleurs 4, sont toujours en prison. Extorsion de fonds, violence, c'est pas quand même des héros. C'est très dommage que Adama Traoré soit mort. Mais enfin, je veux dire, on peut pas en faire des héros. Mais vous voyez que dans ces banlieues, où les policiers sont quelquefois, peuvent avoir des attitudes racistes, peuvent, et on a vu des images qui étaient révoltantes, ça c'est vrai. Mais je veux dire, il y a beaucoup de ces jeunes noirs, ils n'ont qu'une envie, c'est d'être policiers, d'entrer dans la police.
Mais c'est très voilà. Simple. La République doit avoir une police qui ressemble à sa nation. C'est le principe même d'une police républicaine.
C'est bien ce qu'on fait. C'est bien ce qu'on fait.
On est en train...
Vous voyez donc, les choses avancent. Alors, est-ce qu'il faut
attention,
que ces jeunes...
Attention, vous êtes encore d'accord.
Est-ce qu'il faut que les jeunes...
Est-ce qu'elles avancent assez vite ?
Jeunes, en classe, on leur dise attention, on a été des salauds, là, sous Louis XIV, d'ailleurs, n'allez plus à Versailles.
Le but n'est pas de leur dire qu'on est des salauds. Le but n'est pas ça. Le but est de faire l'histoire de France.
C'est Louis XIV qui a voulu le code noir, plus que Colbert, vous voyez. Alors là, si on commence...
Vous savez très bien que dans ce pays, il y a 23 musées du sabot, aucun musée d'histoire coloniale. Vous n'allez pas justifier qu'on peut éduquer la nation en n'ayant aucun musée capable de regarder 4 siècles et demi d'histoire depuis que Cartier est parti porter le drapeau des couleurs de France au Canada. Aucun musée d'histoire coloniale. On n'éduque pas une nation avec le silence. Oui. C'est pas possible.
Il faut faire la dernière pause. Après, juste après la dernière pause, j'ai failli vous faire plaisir et vous faire la première émission où on ne dise pas un seul mot du Covid. Mais il y en aura quand même un tout petit peu avec un article aux États-Unis. Et puis ensuite, l'injonction au monarque de parler. Allez, dernière pause.
Mediapolis continue avec vous, Olivier Duhamel et Catherine Ney, mais avec également votre invité du jour, l'historien Pascal Blanchard, qui est aussi documentariste et concepteur d'exposition.
Et avec Alice Baudry, directrice du marketing et de la communication de l'Institut Montaigne, qui surveille les médias internationaux pour nous. Et qui me signale une étude de Harvard qui ravive le mystère des origines de la Covid-19. On nous aurait caché les premiers signes d'apparition du coronavirus qui auraient commencé beaucoup plus tôt que ce que nous pensons. On parlerait presque de théorie du complot. La source que nous apporte Alice Baudry est bien académique. Il s'agit de chercheurs de la prestigieuse université de Harvard au sein de la Medical School qui ont fait paraître cette semaine une étude qui analyse les images de satellites en Chine à l'automne. Et ils observent une augmentation du trafic hospitalier à l'extérieur de 5 grands hôpitaux de Wuhan dès la fin de l'été et au début de l'automne. Une augmentation que le professeur de médecine de Harvard qui a dirigé la recherche de Dr. Bronstein a qualifiée de spectaculaire. L'article des ABC News explique que ce trafic a coïncidé avec des requêtes élevées sur un moteur de recherche internet chinois pour chercher des informations sur des symptômes plus tard étroitement associés au nouveau coronavirus, toux, diarrhée, etc. Des preuves circonstancielles, l'étude constitue en tout cas un nouveau point de données important dans le mystère des origines du Covid-19. Et j'ajoute que la porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois s'est empressée de faire une déclaration pour dire que tout ça était ridicule.
Bon, mais vous pensez bien que c'est vrai, parce que si les Chinois ont bloqué toute la région de Wuhan, hein, 50 millions de gens, sous prétexte qu'il y avait 3 000 morts sur 1,4 milliard de Chinois, c'est un trait dans la notice nécrologique. C'est bien qu'il s'est passé des choses, qu'il y avait beaucoup de morts, qu'ils ont eu peur et qu'ils n'ont pas dit la vérité pendant longtemps.
J'entends bien, Catherine. Il y a deux nouveautés dans ce qu'on évoque là à l'instant. La première, c'est qu'on remonterait beaucoup plus loin dans le temps. Au départ, c'était décembre, puis on est monté à novembre, puis on est monté à octobre. Et là, ça remonterait au mois d'août. Ce qui change quand même les choses sur la propagation du virus et tout. Et d'autre part, c'est une voie d'analyse qui n'a aucun rapport avec les expérimentations épidémiologiques habituelles qui se fonderaient sur des images de satellites, sur des trafics automobiles, ce qui ouvre quand même des horizons considérables. Enfin, il y a un petit point quand même dont il faut qu'on parle dans les deux minutes qui nous restent avant la chanson, c'est, comme tout le monde le sait, Emmanuel Macron va parler demain soir. Et alors, par exemple, vous faites une émission qui s'appelle Mediapolis, Emmanuel Macron va parler, déjà, vous n'avez pas... C'est impossible de ne pas dire Emmanuel Macron va parler. Tout le monde sait qu'Emmanuel Macron va parler. Ça n'a aucun intérêt que je dise Emmanuel Macron va parler. Mais si je ne dis pas Emmanuel Macron va parler, ben comment ? C'est l'événement médiapolitique et il n'a même pas été évoqué. Bon, première bizarrerie. Deuxième bizarrerie, ça fait des jours et des jours qu'on entendait dire ici et là, le président doit parler, le président doit parler. Et alors là, vous l'entendez par des hommes politiques, puis vous l'entendez par des journalistes, par des commentateurs, une espèce de petite musique comme ça, le président doit parler. Je me demande si on n'est pas le seul pays au monde dans lequel tous les trois mois on dit le président doit parler, le président doit parler, puisque les monarchies absolues n'existent plus. C'est bizarre quand même, Catherine Ney, non ? Cette obsession du président qui doit parler.
Mais oui, mais quand il ne parle pas, on dit pourquoi il se tait-il. Alors, voilà, donc c'est comme ça, parce qu'il faut aussi que les journalistes, eh bien, vous savez, surtout dans les chaînes en continu, il faut alimenter, hein, faut dire des choses. C'est vrai qu'on ne faisait pas ça autrefois, on ne se demandait pas, ça ne faisait pas les journaux. Mais c'est vrai qu'il va parler.
Et on ne disait pas De Gaulle doit parler, Pompidou doit parler.
Non, on ne le disait pas, mais on a changé d'époque aussi. On a changé d'époque. Mettons un genou à terre, voilà. Parce que peut-être que trop, c'est trop. Mais je veux dire, il va parler, on va voir ce qu'il va dire. Alors mais les bruits qui couraient avant qu'il ait parlé, on se demandait s'il n'allait pas démissionner. S'il n'allait pas dissoudre l'Assemblée, s'il n'allait pas, enfin, des trucs complètement fous.
Et puis maintenant, est-ce qu'il va parler de ci, est-ce qu'il va parler de ça ? Allez, juste, on voulait signaler cette bizarrerie avant de terminer, parce que, quand même, la chanson... Alors là, Jean-Luc Arblade, il a frappé fort avec la chanson. Il nous a trouvé une chanson composée par Alain Souchon et son grand camarade Laurent Voulzy, chantée par Laurent Voulzy, qui date de 1988, qui s'appelle « Le soleil donne » et qui tombe à pic.
La même couleur où j'en
tape sur nos systèmes, l'envie que tout le monde s'aime, le soleil donne. Ce vieux désir super, qu'on serait tous un peu frères, le soleil donne. Le soleil donne. De l'or intelligent, le soleil donne. La même couleur aux gens, la même couleur aux gens, gentiment. Feel the fire in your blood, make believe we're all in love in the Sunday.
We
can dream the sweetest games, all the hands around the flame in the sunlight. In the sunlight, the gold.
lips coming down in the sundance. White's turning into brown.
Don't stare around.
The rain don't stay around. Been in a town.
We're just dancing with the sundance.
Oro inteligente alumbra a la gente, lo de el sol. Ole el sol, a todo el mundo da ole el sol.
Una tez morena, una tez morena.
C'était donc le soleil donne multilingue Laurent Voulzy 1988, mais dans une version remixée en 2004 par l'artiste a cappella. Quel joli nom d'artiste, a cappella. Merci à tous, merci à Catherine Ney en premier, bien entendu, à notre invité si intelligent et vivant, Pascal Blanchard.
Merci.
À Capucine Patouillet qui a préparé l'émission, Jean-Luc Arblat qui l'a réalisé. Justine Holman, la meilleure des meneuses de jeu, ou presque.
Merci Olivier.
Ou presque, pour ne pas en vexer une ou deux. Telle ombline à laquelle je pense parfois aussi. Et faites écouter l'émission en podcast sur Europe 1.fr. Les gens apprendront plein de choses et s'ils dorment, ça les réveillera. Ciao, à samedi prochain.